Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui au Salon de lecture Jacques Hirschage. Donc pour écouter cette séance autour de l'île de Pâques, l'Odyssée des fantasmes. Nous avons avec nous Nicolas Garnier, responsable des collections Océanie ici au musée. Et donc cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la Fête de la science, donc dans la thématique et les fausses nouvelles et enfin voilà donc pourquoi parler de l'île de Pâques à cette occasion, vous allez le comprendre. Merci Nicolas.
Merci Muriel. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je réinstalle la technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Bien, écoutez, bienvenue. Il y a un certain nombre de têtes que je connais, puis d'autres têtes que je connais moins bien. Je suis assez surpris d'ailleurs par un dimanche de très beau temps, sans doute le dernier, j'espère pas, mais probablement quand même le dernier avant 7 ou 8 mois, que vous vouliez vous enfermer comme ça dans une salle obscure alors qu'il fait si beau à l'extérieur. En fait, cette petite présentation est un petit peu, non pas fortuite, mais est liée à deux types de circonstances. Le directeur de la recherche qui vient nous quitter il y a quelques semaines, Frédéric Keck, avait lancé l'idée, il y a maintenant plusieurs mois, qu'il y avait des choses à faire autour de cette notion de fake news, qui est la thématique générale aujourd'hui dans le pays pour célébrer cette fête de la science. Et puis, lorsque l'idée circulait au sein de nos équipes qu'il fallait faire un certain nombre de présentations ou de propositions, je travaillais ou nous mettions la dernière main à une série d'expositions sur l'île de Pâques. Et puis, en fait, vous savez comment ça se passe dans n'importe quelle administration. En fait, beaucoup de choses se décident dans les couloirs entre deux portes, y compris les choses les plus sérieuses. Et comme nous faisions toutes sortes de blagues autour de l'île de Pâques, je m'étais dit, l'île de Pâques, c'est un sujet assez formidable, puisque dans le Pacifique, ça fait partie des rares endroits qui a nourri un imaginaire constant, assez débridé et s'inscrivant sur des informations finalement assez peu solides. Et puis, avec Julien Brackhammer, qui travaille également à la médiathèque, il avait eu l'idée de cette très belle affiche avec une soucoupe volante, qui est une vraie soucoupe, mais pas volante du tout, c'est-à-dire une soucoupe de je ne sais plus quoi, qu'il avait superposée à une gravure du 19e siècle. Et puis, en fait, voilà, l'idée est partie là-dessus. Donc, en fait, un petit peu comme une boutade. Et en fait, quelques jours plus tard, après avoir proposé cette idée et qu'elle ait été validée, je me suis dit, mais quel imbécile je fais, pourquoi je vais aller m'embêter à travailler sur un sujet aussi loufoque? On ne devrait pas dire des choses comme ça, je devrais vous dire au contraire, non, c'est magnifique, quel magnifique sujet. En fait, j'avais très peur aussi d'attirer un certain nombre de gens qui se passionnent pour l'île de Pâques. Non pas que ce soit une mauvaise chose de se passionner pour l'île de Pâques, mais finalement, l'histoire des fake news. Et je ne veux pas faire de principe général sur les fake news, mais les fake news ou les idées loufoques souvent s'auto-nourrissent. Je connais un certain nombre de personnes qui se passionnent pour un sujet, mais souvent dans un cadre complètement isolé. L'avantage de travailler comme universitaire, c'est qu'on est en permanence raboué par ses collègues. C'est-à-dire que quand on commence à échafauder une idée qui commence à dériver un petit peu, immédiatement, il y a un certain nombre de nos collègues qui nous disent « Attention, Nicolas, tu déconnes. » Ils ont peut-être un vocabulaire un petit peu plus châtié, mais finalement, les idées les plus farfelues se heurtent au bon sens ou à l'érudition d'un certain nombre de nos collègues. Et sur un certain nombre de sujets, je vais vous en citer quelques-uns, les pyramides d'Égypte, le Grand Sphinx, Stonehenge, vous avez eu des idées, souvent un petit peu abracadabrantes, qui sont nées dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, souvent passionnées, qui consacrent 20, 30, 40 ans de leurs travaux à se focaliser sur un sujet comme celui-ci, mais souvent dans un isolement à peu près total, en lisant énormément, en sachant énormément de choses, mais finalement en tirant des conclusions parfois un petit peu étranges. Et je voulais commencer cette présentation à partir d'un des premiers visuels que nous ayons de l'île de Pâques et qui me semblait à ce titre assez révélateur pour poser les bases de cette petite réflexion que je vous propose. En guise de préambule et avant même de commencer à commenter cette image, je préférais vous rassurer, je ne suis pas un spécialiste de l'île de Pâques. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas inventer les informations, mais il me semblait que l'île de Pâques, je ne voulais pas l'aborder et vous faire une présentation comme un expert de l'île de Pâques. Je vous donnerai quelques références si vous vous intéressez au sujet et si vous voulez prolonger une réflexion avec cette fois-ci des spécialistes. Mais le fait est que j'avais entre les mains depuis un peu plus d'un an un certain nombre de documents, notamment tous les documents préparatoires aux trois expositions sur l'île de Pâques qui ont lieu encore pendant une semaine ou deux dans le sud de la France. Vous savez peut-être qu'à Toulouse, à Figeac et à Rodez, vous avez trois belles expositions qui ont donné lieu à un très beau et très savant catalogue qui forme une forme de bilan. Vous aviez eu l'année dernière également, non, pardonnez-moi, en début d'année, vous aviez eu une belle exposition sur l'Océanie à Bruxelles, avec comme point d'orgue précisément les collections bruxelloises sur l'île de Pâques. Donc je m'étais dit, voilà, ça servait un petit peu, si vous voulez, de terreau à ma réflexion. Et puis j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'aller faire un tour à Greenwich, à côté de Londres, où vous avez, dans le Queen's Pavilion, le très beau bâtiment des Nego Jones, vous avez une collection de peintures assez étonnante, tout à fait éclectique, et parmi lesquelles vous avez cette magnifique peinture de l'île de Pâques qui était faite vraisemblablement au retour du deuxième voyage de James Cook et qui présente une des premières versions de l'île. Et comme vous le voyez sur cette peinture, vous y avez des choses qui peuvent faire penser à l'île de Pâques, mais qui, dès les premières images, vont servir de terreau à un imaginaire assez complexe. La première chose, vous voyez, contrairement aux autres peintures de William Hodges qu'il fait pendant le deuxième voyage, qui montrent un Pacifique luxuriant, extrêmement plaisant visuellement, la peinture qu'il propose de l'île de Pâques est une peinture qui est à l'inverse une peinture sombre, pré-romantique. Vous voyez un ciel extrêmement chargé, une végétation désolée, une terre extrêmement rocailleuse, qui est celle qui est découverte par l'équipage de Cook. Je vous rappelle que James Cook ne met pas pied à terre, si ma mémoire est bonne, lors du deuxième voyage. Il est malade, c'est donc une partie de son équipage qui fait les relevés et qui prend des informations à son compte. Mais je vous l'ai dit, dès le début, vous avez un certain nombre de licences qui sont prises vis-à-vis des observations. Vous reconnaissez, pour ceux qui sont spécialistes de l'île de Pâques ou pour ceux qui connaissent un petit peu, les fameux haus, c'est-à-dire ces plateformes cérémonielles qui bordent la côte de l'île de Pâques, mais vous pourrez remarquer que contrairement aux haus que nous connaissons, eh bien, les grands moai, c'est-à-dire ces grandes figures anthropomorphes qui sont dressées parallèlement au rivage, eh bien, regardent vers le rivage. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'île de Pâques, vous savez peut-être qu'il s'agit d'une représentation topographique erronée, puisque même si on pense qu'il y avait très peu de Moai encore debout à l'époque de James Cook, ceux-ci, et on le sait, les archéologues sont absolument unanimes là-dessus, eh bien ne regardent pas vers le littoral, contrairement à l'image de William Hodges que vous avez sous les yeux, mais à l'inverse, regardent vers l'intérieur des terres. Première chose, première licence. Ensuite, il ne s'agit pas tant d'une licence que de la mise en évidence, tout au premier plan du tableau, d'un imaginaire morbide qui, certes, s'ancre dans une réalité observée. Vous voyez la présence d'ossements et de crânes. On sait que dans une phase finale des cultes rendus à l'île de Pâques, ces grands haus, ces grandes plateformes cérémonielles, avaient servi de lieu de sépulture pour des personnages importants, les hariki. Et vous les avez, alors je vais prendre, j'espère que mon curseur marche, si vous ne les distinguez pas, vous voyez, dans cette espèce de trouée de lumière entre les rochers, la présence d'un crâne et d'ossements. Par ailleurs, chose que l'équipage de James Cook rapporte, donc il ne s'agit pas de quelque chose de fantasmé, et qui va être une forme de fil conducteur. Je montrerai tout à l'heure un dessin de Julien Viau, le futur Pierre Loti. Vous verrez là encore la mise en évidence de ce type de détails. Avant de commencer, je voudrais vous proposer un certain nombre de points généraux, enfin plutôt pour commencer, des points généraux sur l'île de Pâques, et je vais vous proposer une forme de petite chronologie, une chronologie à la fois polynésienne et une chronologie coloniale et postcoloniale pour vous resituer l'histoire de l'île de Pâques sous un long terme. D'abord, une carte générale du Pacifique. L'île de Pâques, vous voyez, est ici particulièrement isolée. Je vais vous donner quelques chiffres. On est à peu près à 2 800 km des Gambiers, en Polynésie française et à 4000 km environ, un petit peu moins de 4000 km des côtes d'Amérique du Sud. Cela forme de toutes les îles du Pacifique une des plus isolées et également une des plus petites à être peuplée. Elle présente par ailleurs des caractères géologiques un petit peu, non pas totalement inédits, mais relativement inédits, puisque la plupart des îles du Pacifique, que ce soit des îles sous la forme d'atolls ou sous la forme d'îles avec des reliefs importants et très accusés, comme aux Marquises par exemple, vous avez la plupart du temps une forme de lagon qui entoure l'île et qui permet une pêche assez aisée. La particularité de l'île de Pâques, et je vous engage à aller visiter les galeries ici, où nous présentons un hameçon de l'île de Pâques, on en a plusieurs dans les collections, mais on en a un au moins que vous pouvez aller voir juste après la conférence, ce sont des hameçons de pierre dont on ne connaît pas forcément et dont on ne comprend pas forcément bien l'usage, mais l'hypothèse la plus couramment acceptée, c'est que ces hameçons de pierre étaient liés à la nature même du fond marin entourant l'île de Pâques. L'île de Pâques étant une éminence extrêmement abrupte qui se dresse dans l'océan, vous n'avez pas ces fonds relativement plats, en tout cas pendant plusieurs centaines de mètres, qui ceinturent beaucoup des îles du Pacifique, mais au contraire, un fond marin qui se précipite dans la mer. Et il est possible, on ne connaît pas exactement là encore l'usage exact de ces hameçons, qu'on connaît à plusieurs centaines d'exemplaires, mais il est possible que ces hameçons servaient de poids également, et donc en fait, ces hameçons de pierre allaient directement jusqu'au plus profond des fonds marins. Voici l'île de Pâques, une île qui, alors je ne me souviens plus vraiment de la dimension, mais ça fait à peine 20 km de long, c'est tout à fait petit l'île de Pâques. Aujourd'hui, la population se trouve regroupée dans un petit village qui s'appelle Angaroa. Je vous en reparlerai tout à l'heure, j'essaie de reprendre la main. Voilà, que vous avez ici, qui se trouve à proximité de la piste d'atterrissage. Vous avez ici un des lieux de culte principaux, avec un des principaux volcans et le site d'Orongo ici. Et puis ici, l'autre grand site dont nous reparlerons tout à l'heure, qui est la principale carrière, qui a fait l'objet d'interprétations assez diverses, certaines tout à fait précises, d'autres un petit peu plus fantaisistes, on va dire. Voici une carte générale. J'espère ne pas être redondant. Certains parmi vous sont peut-être des spécialistes du peuplement du Pacifique, mais pour ceux qui ne le sont pas ou pour celles qui ne le sont pas, je voulais faire un petit rappel extrêmement succinct. Et en fait, je vais faire ce rappel avec, je l'espère, le plus de précision utile pour la suite de ma présentation. Le peuplement du Pacifique est un peuplement que nous commençons simplement à connaître. C'est-à-dire qu'il y a 60 ans, nous savions relativement peu de choses sur le peuplement du Pacifique et l'essentiel de cette histoire du Pacifique nous était connu que sous la forme d'hypothèses et était essentiellement de nature spéculative. Je préfère commencer par là, simplement pour vous expliquer dans quel contexte les hypothèses développées par exemple par Thor-Heyerdahl, qui sont peut-être celles qui vous sont le plus familières, ont émergé. Et aujourd'hui, elles sont entièrement réfutées, mais à l'époque où elles avaient été émises, des hypothèses contraires venaient simplement d'apparaître et étaient relativement inédites. J'en reparlerai, je reviendrai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, l'état de nos connaissances nous fait dire que le Pacifique a été peuplé à la suite de deux grandes vagues de migration. Une première vague de migration dont les dates restent encore extrêmement mal connues parce que le littoral des zones sur lesquelles sont arrivés ces premiers habitants du Pacifique aujourd'hui est sous l'eau. On se trouve il y a à peu près 50 000 ans. Certaines hypothèses font remonter ça jusqu'à 60 000 ans, notamment pour un certain nombre de charbons étudiés en Australie, ou de ce qui est aujourd'hui en Australie, parce qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas l'Australie, évidemment, mais ça n'avait pas du tout la forme de l'Australie. Ça formait une grande masse continentale qui s'appelle Sahul, qui, pour être simple, suit les contours de cette vaste zone ocre. Donc, on prend l'île de Nouvelle-Guinée, l'Australie, et puis également la Tasmanie, sous une seule plaque continentale. Et il est probable que, en fait, les premiers arrivants arrivent par Sunda, soit serait arrivé par le nord, soit serait arrivé plutôt par l'ouest. En fait, le lieu d'arrivée de ces premières populations nous est aujourd'hui relativement mal connu. Donc, je vous dis les dates aujourd'hui considérées, c'est aux alentours de 50 000 ans. Très rapidement, une population importante s'établit sur toute cette masse continentale qui commence à se diviser simplement il y a à peu près 10 000 ans, à la suite de la dernière glaciation de Worms. À ce moment-là, les eaux des océans remontent et divisent cette grande plaque continentale en trois grandes îles, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Australie, la Nouvelle-Guinée et puis enfin la Tasmanie. Ces gens peut-être pas forcément des marins expérimentés, pardon, mais ce sont des marins, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils se déplacent et ils vont peupler des îles proches. En particulier, on sait qu'un certain nombre de ces premiers habitants vont aller jusque dans l'île du nord des îles Salomon. On a à peu près, il y a 27 000 ans, une population qui est dans l'île la plus septentrionale, oui, c'est ça, des îles Salomon. Donc, ce n'est pas des gens uniquement continentaux, si vous voulez. Ce sont des navigateurs qui ont également une volonté de coloniser des terres. Maintenant, on n'en connaît pas forcément le détail et il y a encore une histoire de l'archéologie, de façon où, en tout cas, on a encore des chaînons à installer. Mais voici, si vous voulez, les grandes lignes. Il est vrai que les archéologues qui sont intéressés au Pacifique se sont intéressés ou ont été plus nombreux finalement à s'intéresser à la partie la plus insulaire du Pacifique. Et là, il faut s'intéresser à une deuxième vague de migration qui commence d'Asie du Sud-Est, peut-être de Taïwan ou des côtes les plus méridionales de la Chine ou de l'Asie du Sud-Est et vont passer par les Philippines, ce qui est aujourd'hui les Philippines, et s'installer d'abord dans l'archipel Bismarck, puis peut-être sur les côtes nord de la Nouvelle-Guinée, et très rapidement vont peupler d'ouest en est les îles du Pacifique jusqu'à arriver à Samoa en à peu près 1200-1300 ans. Donc vous avez l'essentiel du Pacifique qui va être peuplé dans une période extrêmement courte. Hein. En un peu plus de 1000 ans, on a une grande partie du Pacifique qui est peuplée et un tout petit peu plus tard, on arrive dans ce qui est aujourd'hui les îles de la Société et il y a un petit temps de latence qu'on ne connaît pas très bien et les extrêmes polynésiens, ce qu'on appelle les extrêmes polynésiens, je commence sans qu'il y ait d'ordre, si vous voulez, chronologique, Hawaï, Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, et enfin Rapa Nui, l'île de Pâques, qui sont peuplées. On les appelle les extrêmes polynésiens parce que si vous avez une forme toute relative de continuité insulaire, voyez dans la partie centrale, jusqu'en gros en Polynésie française et les îles de la Société, en revanche, les autres îles sont beaucoup plus distinctes, beaucoup plus distantes, pardon, excusez-moi, et ne vont être peuplées. Quand j'étais jeune étudiant, c'est-à-dire il y a un an, non, c'est pas vrai, je me moque, quand j'étais jeune étudiant, la théorie, c'était que le peuplement du Pacifique était le fruit du hasard. Des grands navigateurs, aventuriers, s'aventuraient, le terme d'aventure était vraiment très présent dans le discours, et partaient à la recherche, une recherche souvent létale, c'est-à-dire qu'on partait et puis on en revenait ou on ne revenait pas. Vous connaissez peut-être ce roman, j'ai oublié son nom, de cet auteur français qui a reçu un prix Nobel de littérature il y a 7 ou 8 ans, comment s'appelle-t-il ? L'auteur Le Clésio, qui a écrit justement un roman qui reflète, en tout cas, moi, mes cours d'archéologie du Pacifique à l'époque, à savoir, on s'embarque, c'est la grande aventure. Depuis une dizaine d'années, un petit peu plus en réalité, on est revenu sur cette histoire du peuplement aléatoire du Pacifique, simplement en remettant le peuplement du Pacifique dans un contexte chronologique plus précis. On ne peut pas imaginer la colonisation de ces milliers d'îles en un millénaire sans penser à un plan général et à un système, pardonnez-moi, systématique. Un système systématique, vous me pardonnerez cette horreur grammaticale, mais il y a un propos qui est celui d'une population colonisatrice. C'est-à-dire que le peuplement du Pacifique n'est pas le fait de navigateurs aventuriers, mais de navigateurs expérimentés qui partent avec une méthode et qui partent et qui reviennent. En gros, d'une population aléatoire, on a maintenant une autre idée où les archéologues sont tombés d'accord sur une autre conception, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de bateaux éclaireurs qui partiraient et qui ensuite reviendraient chercher une partie de la population et on repartirait sur la même route à la faveur de vents similaires pour peupler de façon systématique ces îles-là. Et il apparaît de plus en plus probable que nous ayons des mouvements d'aller et retour entre les îles mères et les îles filles, les îles d'où partent la population et les îles peuplées. Et c'est l'hypothèse, même si aujourd'hui on a du mal à l'étayer avec des preuves très tangibles, mais en tout cas, et la mythologie et les recherches en ADN qui deviennent de plus en plus précises, nous font penser qu'il y a ce type de mouvement. Dernière chose, avant d'aller plus loin dans l'évocation extrêmement rapide de cette population du Pacifique, et c'est particulièrement, on va dire, brûlant pour l'île de Pâques. En réalité, moi qui suis plus à l'aise avec, on va dire, ce qu'on appelle le Pacifique proche, c'est-à-dire la Nouvelle-Guinée et les îles mélanésiennes, on sait que depuis au moins 400 ans, on a de la patate douce et de la patate douce qui est cultivée traditionnellement dans tout le Pacifique, en gros. Avec justement cette idée extrêmement étrange, c'est que certaines cultures vont faire usage de la patate douce et d'autres cultures ne vont pas en faire usage. C'est ça qui est assez étrange. Or, la patate douce, on la connaît bien, vous la connaissez aussi, c'est un tubercule qui vient d'Amérique du Sud et qui ne peut provenir que d'Amérique du Sud. Dans un premier temps, on pourrait y voir la preuve que le Pacifique a été peuplé par des Américains. C'est la grande hypothèse de Torrey-Yordal que vous connaissez. C'est ce qui, dès le milieu des années 40, va nourrir l'imaginaire de cet archéologue et aventurier norvégien, Torrey-Yordal, pour construire un bateau construit avec des méthodes et avec des matériaux et sur le modèle d'un certain nombre de bateaux péruviens tels qu'on pouvait les connaître à travers l'archéologie. Et l'hypothèse de base de Torrey-Yordal, c'est de dire que le Pacifique a aussi été peuplé. Son hypothèse n'est pas absolument catégorique, mais il veut démontrer que le Pacifique a été peuplé par des Américains, par des populations incas à une époque diverse. Aujourd'hui, si on n'exclut pas absolument l'hypothèse d'un peuplement américain, puisqu'on a des traces ADN américaine dans une partie des populations et notamment pour l'île de Pâques, on pense en fait qu'il s'agit plutôt du contraire. Et il s'agit bien d'un système d'une population qui part de l'ouest vers l'est et qui va aller jusqu'à le point le plus oriental possible, c'est-à-dire jusqu'aux côtes américaines. C'est pour ça qu'on va trouver dans une partie de l'Amérique du Sud, par exemple, des poules qui portent des traces génétiques de poules de gallinacées du Pacifique. Aucune des hypothèses n'est évidemment absolument à exclure, mais si on combine des traces ADN, des traces matérielles de contact avec un système culturel qui nous apparaît comme de plus en plus tangible, à savoir une population conquérante qui fonctionne essentiellement comme une population colonisatrice, il faut beaucoup plus chercher un déplacement de l'ouest vers l'est que, à l'inverse, l'hypothèse proposée par Torrey-Yordal, un peuplement de l'est vers l'ouest. S'il est évident qu'on sait que des Incas ou des populations américaines se sont déplacées de l'Est, vers l'Ouest. On en a en particulier, si ma mémoire est bonne, et certains pourront me corriger, vers les Galapagos, on a bien des traces de populations ou d'installations américaines. En revanche, il semble que ce soit plus le fruit du hasard, parce qu'on n'a pas précisément chez les populations américaines une volonté et une structure culturelle qui pousse véritablement vers la découverte et vers la colonisation de terres nouvelles, contrairement aux populations polynésiennes. Voilà, j'étais un petit peu long. Alors, en ce qui concerne le peuplement de l'île de Pâques, voyez là, je vous montre un petit peu. Donc, vous avez les îles de la Société qui servent vraiment de point de départ vers les extrêmes polynésiens. J'ai eu la chance d'être à Tahiti avec un groupe de Maoris il y a maintenant 4 ou 5 ans, et nous avions visité les grands marae qui sont dans la vallée centrale de Papeete. Et ce qui était très émouvant, c'était d'entendre dire les Maoris réciter des chants qui les reliaient, si ce n'est à Tahiti, au moins Raiatea, et par Raiatea à Tahiti. Donc on avait des filiations, et aujourd'hui extrêmement présents, mémorisés, malgré les changements culturels importants depuis l'époque coloniale. On a en tout cas une volonté. J'y étais aussi avec des Hawaïens. Les Hawaïens étaient peut-être moins, comme on pourrait dire, faisaient partie d'une élite peut-être moins intellectuelle, et ils avaient un peu plus de mal à relier si vous voulez, des lignages et des mythes, mais en tout cas, leur origine de Polynésie centrale ne faisait aucun doute. Je n'étais pas avec des habitants de Rapa Nui, mais ça aurait pu se faire, et je ne sais pas aujourd'hui quel est l'état, mais justement, l'exemple de l'île de Pâques est un exemple un petit peu différent, nous le verrons. Alors, en ce qui concerne la première population arrivant à l'île de Pâques, on est un petit peu plus tardivement et on va se retrouver avec des figures qui sont comparables avec celles de la Nouvelle-Zélande et de Hawaï. On aurait une population entre 800 de notre ère et 1100 à peu près. Les chiffres sont un peu vagues et d'un archéologue à l'autre ou d'un chercheur à l'autre, vous verrez des chiffres un petit peu variants. Il s'agit d'une forme de tranche chronologique qui est à peu près celle que vous retrouverez justement pour Aotearoa et Hawaï, avec pour Hawaï vraisemblablement un double peuplement, un premier peuplement marquisien, peut-être aux alentours de 800, et puis un deuxième peuplement, peut-être un petit peu plus méridional justement, peut-être des îles de la Société qui arriveraient plus tard, ou peut-être un deuxième peuplement marquisien également, en sachant qu'il est possible que l'origine de l'île de Pâques, ou les premiers habitants de l'île de Pâques, soient également soit des habitants de Tuamotu, soit des habitants, et ce qui semble plus vraisemblable, des Marquises. Ensuite, on va distinguer dans l'histoire de l'île de Pâques, et c'est ça qui en fait tout l'intérêt, plusieurs phases. Une, on va dire, une phase principale qui est la phase d'érection des grands haous, des grandes plateformes qui vont former comme une forme de ceinture cultuelle qui borde tout le littoral de l'île. On a plus d'une centaine de ces plateformes, certaines particulièrement spectaculaires comme celle que je vous montre sur la photo. Et puis d'autres, au contraire, qui sont à peine lisibles et que seuls des archéologues pourront vous montrer. C'est l'archéologue américaine Joan von Tilburg qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a publié, depuis qu'elle travaille à l'île de Pâques, un certain nombre de chiffres qui font aujourd'hui référence, même si ils sont contestés pour un certain nombre de détails, mais pas pour pas pour, comment on pourrait dire, pas pour leurs idées générales. Donc en gros, on a de l'an 1100. Non, je ne devrais pas dire aux alentours de 1100 jusqu'à 1600, une période d'expansion avec un certain nombre de groupes humains qui vont s'établir en périphérie de l'île, un petit peu à la façon d'un camembert. Pardonnez ma métaphore, pas forcément très élégante, mais il faudrait imaginer un point virtuel au centre de l'île, à partir duquel vous auriez un certain nombre de rayons qui forment comme des espèces de parcs consacrés ou occupés par des groupes différents. Ensuite, on a une période de rupture qui a fait l'objet de spéculations extrêmement nombreuses, y compris contemporaines. Je pense à Jared Diamond, et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. On a ce que Jared Diamond appelle un effondrement, un collapse. Il part de l'île de Pâques avec une interprétation peut-être un petit peu abusive de l'île de Pâques pour évoquer une société qui abuse de son environnement, qui le met tellement à mal que la société viendrait à s'effondrer. Si je laisse de côté l'interprétation de Jared Diamond, en tout cas, ce qui est évident, c'est que les premiers navigateurs de Roggeveen, qui est un navigateur hollandais qui aperçoit l'île de Pâques en 1722, c'est d'ailleurs lui qui donne le nom à l'île, puisque quelques jours, il arrive où il voit l'île de Pâques quelques jours avant le jour de Pâques, d'où le nom île de Pâques. C'est évidemment pas à cause des œufs de Pâques en chocolat qu'on trouve dans l'île, même si je ne crois pas qu'on ait encore fait cette interprétation, mais je vous le laisse, puisque en fait, on est aussi là pour sourire un petit peu, c'était le titre de ma conférence. il décrit une île particulièrement isolée. Finalement, on n'est pas très loin de ce que 70 ans, non pas 70 ans, 50 ans plus tard, pardon, puisqu'on est en 1722, en 1772, James Cook, lui-même, lors de son deuxième voyage, et les récits qui se sont rapportés, rapporte également une île particulièrement désolée, et cette idée de cet état de désolation va se poursuivre. Je vais continuer un petit peu plus rapidement. Ensuite, vous avez un certain nombre de navires qui vont aborder l'île de Pâques, mais l'île de Pâques, ce n'est pas un lieu d'escale pratique, parce qu'en fait, vous n'avez pas de port naturel pratique. Le petit port d'Angaroa est aujourd'hui pas du tout pratique pour des grands bateaux, et même pour des petits bateaux. Et vous allez avoir le 19e siècle qui va être marqué par un certain nombre de drames. Assez curieusement, alors que tout le reste du Pacifique central fait l'objet d'un acharnement missionnaire, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'autre mot que le mot acharnement, l'île de Pâques est relativement protégée. Vous verrez que les missionnaires ne s'y installent que beaucoup plus tard. En 1862, et c'est là qu'on va vraiment avoir une forme de rupture. J'ai parlé d'une première rupture environnementale au cours des premières années sans doute du XVIIe siècle, qui donne naissance à de nouvelles cultures à l'île de Pâques, et la fin et l'abandon des grands haous. J'aurais dû commencer par là. Ensuite, donc ça c'est un premier changement environnemental, dont les causes aujourd'hui font l'objet de spéculations assez nombreuses, et ensuite une brutale changement historique. En 1862, vous avez six navires brigands d'origine péruvienne qui accostent à l'île de Pâques et par ruse et par la menace, c'est-à-dire d'abord par ruse, on propose des colifichets, etc. Donc vous avez les principaux ariki et les principaux prêtres, les principaux dignitaires de l'île qui se rassemblent pour voir ce qu'on leur veut. Et puis donc on leur met entre les mains des probables dons, objets d'échange. Et puis ensuite ils sont encerclés par les membres de l'équipage de cette petite flottille de six navires, et ils sont embarqués de force sur les navires et à destination de mines de guano du Pérou. Avant d'aller plus loin sur cette rupture, il faut savoir qu'entre les années 1850 et 1880, alors que partout dans le monde l'esclavage s'est arrêté, en particulier en Afrique, l'esclavage connaît une recrudescence particulièrement importante dans plusieurs lieux du Pacifique. Là où vous avez des colonies françaises bien établies, en fait, c'est relativement faible. Et encore, je ne connais pas la littérature là-dessus. Je sais, par exemple, que cette flottille fait une première tentative dans les Tuamotu et sont repoussées par, je crois, des soldats français, ou en tout cas par la population. Donc, ils n'arrivent pas à faire la même chose. En revanche, on sait très bien que les Australiens, notamment les Australiens du Queensland, pratiquent ce qu'on appelle le blackbirding dans une grande partie du Vanuatu, aux îles Salomon et, dans une moindre mesure, en Nouvelle-Calédonie. On a évoqué la possibilité que le blackbirding ait été pratiqué également en Nouvelle-Guinée, mais on n'en a pas de preuves très, très importantes. Et il faut savoir que ce sont des milliers et des milliers de personnes qui sont débordées, qui sont mises en esclavage de force et qui ne reviendront jamais au pays, ou alors sous une forme extrêmement dégradée. Et si vous allez dans le Queensland aujourd'hui, toutes les grandes plantations de canne à sucre, par exemple, il faut savoir qu'elles sont nées, toutes les plantations Bundaberg, etc., pour ceux qui connaissent le rhum australien, ce sont des rhums qui sont nés du fait d'esclavage. Et en fait, on a une prise de conscience assez tardive, parce que ça dure à peu près 25 ans, cette pratique de l'esclavage dans le Pacifique. Et si, pour les gens qui sont spécialistes de la Polynésie, on oublie souvent que sur le versant le plus occidental du Pacifique, on a eu des pratiques à très très grande échelle, avec des bénédictions internationales, pour pratiquer cet esclavage de masse, pour travailler sur des plantations de canne à sucre ou pour la partie orientale du Pacifique, dans des mines de guano. L'un dans l'autre, je ne sais pas quelle est la situation la plus enviable de ces formes d'esclavage. Cet esclavage dure assez longtemps, et c'est finalement des prêtres à Tahiti qui alertent un évêque qui est basé au Pérou, et grâce à son intervention, on renvoie les quelques survivants à l'île de Pâques. Malheureusement, les survivants qui reviennent à l'île de Pâques reviennent avec la variole et ils déciment une partie de la population. Alors les conséquences de cette histoire, et pardonnez-moi d'avoir été si succinct sur cette histoire de déportation des chefs de l'île de Pâques, c'est une double chose. Dans les années 1860, on a la perte radicale de tout le savoir traditionnel. Et ça, on va dire, et je serais presque tenté de dire que c'est une des particularités les plus fortes de l'histoire de l'île de Pâques, contrairement à l'essentiel des îles du Pacifique, où vous avez qu'un cas, malgré une christianisation parfois très brutale, malgré une colonisation parfois également très brutale, vous avez une rupture brutale et sans appel de la continuité culturelle. La transmission de la culture orale ne se fait plus. Ce qui fait que des gens comme Pierre Loti, en 1872, qui arrive à l'île de Pâques en prenant quelques témoignages, c'est finalement le premier à faire un travail, entre guillemets, d'enquête ethnographique, et le dernier, puisqu'il est le dernier témoin des gens qui vont mourir ensuite et qui ne transmettront plus leur savoir. Le premier grand travail ethnographique qui est fait, et ici on a la chance d'en avoir une partie des résultats matériels, c'est la double mission franco-belge de 1934-1935, dirigée pour la partie archéologique par Henri Lavacherie et puis pour la partie ethnographique par Alfred Métraux. Alfred Métraux, les documents qu'il nous livre sont des documents à prendre avec beaucoup de circonspection, non pas que ce soit un ethnologue maladroit, bien au contraire, mais lui-même avoue qu'en fait, les différents renseignements qu'il obtient sont des enseignements qui sont obtenus par des biais un petit peu curieux, que les témoignages qu'il obtient sont finalement pas forcément dignes de foi, puisqu'il n'a aucun, en face de lui, aucun témoin de quelqu'un qui n'ait jamais vu un rituel, et que la personne qu'il renseigne, il n'y a d'ailleurs qu'un seul informateur, c'est lui-même quelqu'un qui le tient par des on-dit, et le savoir qu'il nous livre est finalement quelque chose qui nous est très utile aujourd'hui, mais dont la valeur ethnographique, finalement, est assez frêle. Je continue dans mon. Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai l'impression d'être très long et très lent. Ah oui, si, quand même. En 1964, vous voyez, un malheur n'arrive jamais seul, pardon pour les gens qui aiment beaucoup les missionnaires, nous avons les pères des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie, assez tristement célèbres dans le Pacifique, puisque c'est eux qui organisent dans les années 1820 des grands autodafés d'objets, notamment à Mangareva. Vous connaissez les sculptures qui font un bois de chauffe absolument extraordinaire. Sauf qu'en fait, cette nouvelle génération de pères sont assez différents, et finalement vont avoir l'attitude inverse de ceux qui sont arrivés une à des générations avant. Les premiers missionnaires, en fait, ils brûlent tout. Les deuxièmes ou troisièmes générations, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire de l'argent. Donc là, la bonne chose avec cette nouvelle génération de cette congrégation de Picpus, c'est que eux collectent, et on a la chance d'avoir une partie importante des collections qu'ils réunissent dès le début de leur installation. En fait, ils partent relativement tôt. Je crois qu'ils partent de l'île en 1600, soit, en 1600, pardon, en 1872 ou 74. Il reste une petite dizaine d'années, et cette petite dizaine d'années est assez importante puisqu'ils vont faire des collectes importantes pour eux-mêmes et puis pour vendre, pour financer leurs activités. Et puis, lié à cette congrégation, on a un ancien missionnaire basé au Chili qui ensuite devient l'évêque de Papeete et qui se passionne pour un type d'objet extraordinaire de l'île de Pâques, qui sont ces tablettes couvertes de signes qu'on appelle les tablettes Rongo-Rongo. Et en fait, donc, cette présence missionnaire a un effet assez curieux. D'une part, les premiers pères qui s'installent ont la volonté de christianiser l'île, et 10 ans après, l'île est entièrement christianisée. Il reste que quelques centaines de personnes. Hein. L'essentiel de la population a d'une part été brutalement exportés hors de l'île. Les quelques survivants reviennent, ils sont une douzaine, je crois, à revenir dans l'île, et ils ont tué plusieurs centaines en les contaminant avec la variole. Donc on a peut-être quelques centaines de personnes survivant au début des années 70. Malgré tout, ces personnes avaient encore à leur possession ou continuent de créer des petits objets de bois. Nous venons d'en acheter un particulièrement beau, justement, acheté par ces premiers missionnaires. Et notamment, ce sont eux qui vont collectionner un grand nombre de plaquettes de bois qui ont eu une vie assez étonnante, qui ont d'abord été envoyées sans doute au Tuamotu, puis ensuite à Tahiti dans la résidence de l'évêque. Après la mort de l'évêque, on les envoie sans doute à Paris, rue de Picpus, où la communauté avait son siège. En 1904, je crois, ou 1903, voyant qu'à l'Assemblée nationale en France, on s'agite pouvoir faire une division très stricte entre les biens de l'Église et les biens de l'État, les missionnaires prennent ombrage de cette laïcisation de la société française et déménagent en Belgique, à Braine-le-Comte. Et puis, alors je ne sais pas s'il y a eu des histoires avec la Belgique, mais je ne sais plus exactement à quelle époque les collections de Braine-le-Comte sont déménagées et sont aujourd'hui à Rome. Donc, vous pouvez les voir en partie. Et puis, il y a eu quelques petits astucieux, notamment un des chercheurs les plus précoces sur l'île de Pâques, un amateur assez étonnant, dont j'aimerais bien écrire la biographie, parce que je crois qu'elle est encore à faire, le docteur Stéphane Chauvet, qui manigance et qui obtient une petite douzaine de pièces des missionnaires, et on vient de faire l'acquisition peut-être de la pièce la plus importante là au début d'année, donc vous la verrez en vitrine, je l'espère, à la fin de l'année, quand nous aurons récupéré nos prêts très nombreux au musée de Toulouse, Figeac et autres. Voilà, pardonnez-moi, j'ai fait une petite circonvolution. L'arrivée des missionnaires va marquer un double effet. Christianisation, donc ça accuse une perte de savoir déjà fragilisée, mais également un goût pour la persistance d'une partie de la culture matérielle. Mais ça ne va pas, comme toujours, dans un seul sens. En 1668, vous arrivez l'arrivée d'un navire anglais qui s'appelle le Topaz, que vous connaissez peut-être, puisqu'il va faire la plus grande déprédation de l'île de Pâques en emportant le moai le plus important, la briseuse de lames, que vous verrez aujourd'hui au British Museum. Ensuite, vous avez l'arrivée, je ne sais pas si c'est un désastre, de Julien Viau. C'est peut-être pas quand même le meilleur des auteurs de la littérature française, mais il s'appelle pas Pierre Loti à l'époque, il s'appelle juste Julien Viau. C'est un jeune homme de 22 ans qui fait un certain nombre de dessins. Je dois en avoir... où est-ce qu'il est mon dessin de... Ah ben voilà, j'ai sauté des choses. Ici, une gravure faite à partir de différents documents à la suite du deuxième voyage de Cook. Et là, par contre, les moaïs sont placés à peu près dans le bon sens. Voici ce que je voulais vous montrer, la briseuse de lames sur le pont du Topaz au moment de son embarquement pour la photo de droite et puis pour la photo de gauche, le moai que vous voyez aujourd'hui dans une des salles du British Museum. Pendant longtemps, il était à côté de la cafétéria. Je crois que ce sont les Rapa Nui qui se sont plaints assez violemment, comme quoi ça n'était pas une annexe de l'équivalent d'un, comment on appelle ça, ces trucs de café un peu dégueulasses à la noisette, au marshmallow là-haut. Starbucks. Donc le moai ne pouvait pas faire la publicité pour l'équivalent d'un Starbucks et ils ont obtenu la présence dans une salle à peu près presque entièrement consacrée à cette statuette. Et voilà, j'ai perdu, je reviendrai. Voilà, un des dessins de Pierre Loti. Intéressant parce qu'en fait, il montre là encore une vision assez fantasmée de l'île de Pâques. Si on regarde la pente du terrain, là encore, on voit les statues très largement surinterprétées regardant vers la mer. Et puis, cette présence, là encore, angoissante, des restes humains. Je me permets de vous les montrer ici, un petit peu partout. Et puis, avec des objets que lui-même va collectionner, le grand bâton que vous avez ici est vraisemblablement soit celui qu'il emporte et qui se trouve aujourd'hui au Muséum de Toulouse, soit un élément un petit peu différent. Les malheurs continuent dans cette seconde moitié du XIXe siècle. En 1888, le Chili, dans l'indifférence générale, annexe l'île de Pâques et en même temps qu'il l'annexe, transforme l'île de Pâques en un immense parc à moutons. On réunit l'ensemble de la population, non c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, dans le petit village créé ex nihilo d'Angaroa, où l'essentiel de la population vit aujourd'hui. Le village est lui-même entouré de barbelés. On ne peut en sortir qu'avec l'accord des autorités militaires chiliennes et le reste de l'île devient un immense pâturage, et ça jusque dans les années 1950. Donc avec une population, vous voyez, qui est très cloîtrée. Vous verrez, il y a eu un très beau reportage qui a été diffusé, je crois, sur Arte ou sur France 2. Très, très beau reportage. Je ne dis pas forcément du bien de mes collègues journalistes, mais là, je ne saurais que vous en dire du bien. Vous le trouverez, je crois, sur YouTube, avec justement l'histoire de cette population de l'île de Pâques depuis justement la transformation en parc à moutons. Vous avez en 1936, je vous donne comme ça des dates, l'arrivée d'un père qui s'appelle le père Sébastien Englert, qui est un missionnaire d'origine allemande, qui s'installe d'abord au Chili quand il est très jeune, et puis ensuite il vient en tant que missionnaire sur l'île de Pâques. Et c'est un des premiers à véritablement lancer des études ethnographiques et un petit peu d'archéologie. Et le petit musée de l'île de Pâques aujourd'hui porte, à mon avis, tout à fait à juste titre son nom. Alors, je voulais rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, en vous proposant, en fait, alors j'ai été très long, pardonnez-moi, c'est un peu mon défaut, un certain nombre de pistes de réflexion en énumérant un certain nombre de mystères, puisqu'en fait, l'idée de cette conférence n'est pas tant de faire une conférence générale sur l'île de Pâques, mais pourquoi l'île de Pâques est mystérieuse et secrète, évidemment, puisqu'en fait, il n'y a pas de mystère sans secret. Et je vais vous proposer, en fait, un certain nombre de pistes de réflexion ou de pistes sur lesquelles les gens ont construit du mystère ou ont vendu du mystère. Alors, le premier, c'est, en fait, l'histoire de son peuplement. Ensuite, une deuxième série de mystères ou de grands questionnements concerne les grandes sculptures, les moai, avec à la fois leur mode de fabrication et leur transport, et puis l'arrêt brutal de leur fabrication. Enfin, troisième mystère, l'écriture Rongorongo. Et puis ensuite, nous irons vers une autre partie qui sont les interprétations. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, comme ça nous aurons plus de temps pour ouvrir un débat si vous le souhaitez. Aussi, au sujet de son premier peuplement et de l'origine de la population, donc vous allez avoir un double regard, à la fois un regard polynésien et d'autre part un regard ou une perspective américaine. Même s'il n'est pas le premier à s'y préoccuper, c'est pour ça que je vous mets sur l'écran une photo de Thore Hjørdal, donc cet archéologue, ethnologue, aventurier norvégien. Je voulais vous en parler parce que, en fait, Thore Hjørdal se pose une question qui aujourd'hui nous semble un petit peu surannée, mais qui au moment où il la pose ne l'est pas. Il faut penser que jusque dans les années 50, nous n'avons pas de grands travaux archéologique, régulier et systématique dans le Pacifique. La conséquence de tout ça, c'est que le peuplement du Pacifique, tel que je vous l'ai raconté tout à l'heure, est quelque chose qui n'existe pas. Il est aujourd'hui facile de critiquer Thore Hjørdal, mais je vous avoue que j'aurais été bien normal, d'abord parce que je ne suis pas très intelligent, mais d'autre part parce qu'en fait, on n'a pas de données disponibles et systématiques sur l'ancienneté des populations. Nous avons la chance ici au musée de posséder des tessons de céramique parmi les plus importants historiquement de l'histoire du Pacifique. Ce sont les premiers tessons Lapita qui nous permettent justement de suivre à la trace, au moins jusqu'à Samoa, la diffusion de cette deuxième vague de migration. Ensuite, la culture Lapita disparaît, ou en tout cas s'éteint à Samoa, et leurs descendants vont se développer, mais avec des éléments culturels nouveaux, et on perd en particulier la céramique. Après Samoa, on ne fabrique plus de céramique dans le Pacifique. Où est-ce que j'en étais ? Donc en fait, on a bien des recherches archéologiques partout dans le Pacifique, sauf que nous n'avons à l'époque, il faut attendre vraiment le tout début des années 50, aucun schéma général interprétatif pour mettre en place ou pour relier ensemble l'ensemble de ces données. Ce qui fait que l'absence de schéma général interprétatif permet des hypothèses qui nous semblent aujourd'hui assez loufoques et qui prêtent à sourire, à raison ou à tort. En tout cas, Thore Hjørdal, lui, défend une idée tout à fait étonnante, assez fascinante, d'un peuplement par l'Amérique du Sud. Ça se base sur plusieurs choses. D'abord, Thore Hjørdal, et il le fera plus tard, se fascine pour l'île de Pâques, même s'il n'y a pas encore séjourné au moment où il prépare les préparatifs. Préparer les préparatifs, là encore. Pardonnez-moi, c'est les choses orales. Je n'écris pas mes papiers, j'ai quelques notes. Il est dans les préparatifs du Kon-Tiki. En tout cas, ce qui frappe un certain nombre de lecteurs, c'est la proximité formelle de grandes statues avec la statuaire monumentale d'Amérique du Sud, et d'autre part, pour quelques haous, des parements en pierre appareillée qui feraient penser à des parements et des appareillages incas. Il n'en est rien, on a des exemples aux Marquises, au Tuamotu et en Polynésie française assez semblables, même si l'île de Pâques présente peut-être le point le plus abouti architecturalement. Et en fait, l'idée d'un peuplement américain est liée au fait qu'on a bien des traces américaines sur les Galapagos, donc il se dit les Galapagos, c'est un point de départ ou c'est une des étapes vers un peuplement américain du Pacifique. En sachant, je vous l'ai dit, que le peuplement par l'Ouest est une hypothèse, mais qui pour le moment n'a fait l'objet d'aucune proposition systématique. Il faut attendre les fouilles de la région de Kone, du site Lapita, justement, pour pouvoir avoir la réunion et la somme de l'ensemble de ce qui se savait sur justement ces céramiques avec un décor au peigne. Donc, en 1947, Thor Heyerdahl embarque avec 5 personnes du Pérou et il fait route vers l'ouest et il échoue au Tuamotu. C'est un grand succès. Si vous avez des enfants ou si vous avez l'âme d'un grand enfant ou si vous aimez l'aventure, il est évident que lire l'épopée du Kon-Tiki, c'est une histoire absolument merveilleuse. Si vous aimez, si vous êtes marin, c'est une histoire absolument merveilleuse. Quelle est la valeur historique de ce document, elle est relativement faible. Et puis, il faut mettre les choses en perspective. Je ne sais plus qui me racontait l'autre jour, mais Thor Heyerdahl, c'est un Norvégien, c'est un viking. Et finalement, je crois qu'il a parfaitement raison. C'est-à-dire que le Kon-Tiki, il l'affrète non pas comme un Polynésien, encore moins comme un Inca, mais véritablement comme un Norvégien, c'est-à-dire un homme de défi, un homme qui veut se lancer des défis, et on est un homme du XXe siècle, finalement. Et c'est, en fait, et ça me permet l'histoire de Thor Heyerdahl, et je voudrais porter un regard très affectueux sur ce personnage, et sans lui jeter trop la pierre, parce que c'est toujours très facile de critiquer ses prédécesseurs, en sachant, en tout cas en ce qui me concerne, que je ne suis pas sûr du tout d'avoir 10% de sa valeur, en tout cas en tant que navigateur, alors là, je n'en parle même pas. En tout cas, il lance son expédition du Kon-Tiki comme un petit peu plus tard, son travail en 1954-55, à l'île de Pâques, cette année de recherche archéologique avec un certain nombre d'autres archéologues, c'est une hypothèse qui finalement va se heurter à une hypothèse beaucoup plus solide parce que non seulement elle fonctionne sur une base archéologique plus conséquente, mais surtout qu'elle relie pour la première fois des informations jusque-là diverses, et je fais référence aux travaux de Gifford et Shuttler, donc qui sont publiés au début des années 50, deux archéologues qui travaillent sur le site de Kone et qui découvrent un certain nombre de tessons de grandes céramiques travaillées au peigne et qui découvrent donc sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie un certain nombre de tessons qui nous permettent de tracer, cette fois-ci de façon extrêmement circonstanciée, une évolution de l'ouest vers l'est d'une population et qu'on va pouvoir relier jusqu'à Samoa. Donc en fait, les travaux que je viens de publier montrent déjà les premiers jalons, cette fois-ci systématiques, d'un peuplement, alors que le travail autour du Kon-Tiki, même s'il s'agit d'une épopée absolument fabuleuse, manque de rigueur, puisque en fait, nous n'avons pas, à travers le Kon-Tiki, la preuve d'un système, si vous voulez, étape par étape. Ça ne sont que des hypothèses qui se révèlent être possibles techniquement en termes de navigation, mais qui ne s'appuient pas sur un matériel archéologique continu. Voilà donc le gros défaut et, si vous voulez, la faiblesse de la démonstration de Thor Heyerdahl. Ensuite, la deuxième type de problématique qui fait qu'un certain nombre d'hypothèses vont s'affronter, ce sont sur les grandes sculptures. Il a été et il est toujours fait mention de la monumentalité de ces sculptures comme pour finalement isoler cette culture de l'île de Pâques. L'île de Pâques, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ce serait, j'utilise ici et je souligne trois fois le conditionnel, ce serait le seul endroit où on a de la statuaire en pierre monumentale dans le Pacifique. En réalité, c'est faux. C'est faux pour plusieurs raisons. Certes, on va trouver à l'île de Pâques parmi les exemples de statuaire les plus importants, mais il n'y a pas que là. Il y a des efforts architecturaux qui dépassent l'imagination ailleurs dans le Pacifique. Je vais vous en citer deux exemples. Le site particulièrement beau de Nan Madol, en Micronésie, où vous avez une architecture de pierre qui a demandé la participation de milliers et de milliers de personnes pour le bénéfice d'un groupe extrêmement réduit de personnes, quelques centaines de personnes. Donc vous avez, comme à l'île de Pâques, la capacité de certaines cultures du Pacifique à des temps anciens de pouvoir obtenir la coopération de plusieurs milliers de personnes au bénéfice d'une élite religieuse ou politique, même si on ne connaît ni pour l'île de Pâques, ni pour le site de Nan Madol, les circonstances exactes de leur construction. Et puis vous avez enfin, et j'y pense parce que je l'ai vu il y a finalement relativement peu de temps, à Tonga, sur l'île principale de Tonga, vous avez une arche monumentale avec des blocs de tuf volcanique de plusieurs dizaines de tonnes, dont une est suspendue, ou en tout cas surmonte deux grands poteaux latéraux, qui là aussi font appel à des techniques qui, certes isolées, mais qui ne sont pas uniques dans le Pacifique. Donc le travail ou l'exemple de réalisation monumentale utilisant des blocs de tuf de plusieurs dizaines de tonnes, ça n'est pas quelque chose d'unique à l'île de Pâques. Certes, on n'en a pas des dizaines et des dizaines d'exemples, mais isoler l'île de Pâques comme un unicum, c'est une erreur méthodologique assez importante. Et on sait qu'ailleurs, dans le Pacifique, en Polynésie et également en Micronésie, on a des productions architecturales qui nécessitent des coopérations de plusieurs centaines de personnes. Maintenant, les débats continuent à être relativement importants sur non seulement la fabrication, mais également le transport de ces pierres. Finalement, le tuf volcanique n'est pas un tuf qui demande énormément d'efforts. Et si vous allez sur les flancs du volcan Ranuraraku, qui a servi de carrière pour la fabrication de l'ensemble de ces sculptures, vous verrez, là encore aujourd'hui, des centaines de ces sculptures à l'état d'ébauche. On connaît aujourd'hui de mieux en mieux l'outillage dont les Pascuans disposaient pour fabriquer ces objets. Là encore, si vous avez la chance d'aller à Rodez, vous avez encore une semaine ou deux pour voir un très bel assortiment d'outils, notamment des pièces. On a ici à peu près une soixantaine d'objets en lame d'obsidienne qui était si vous voulez, l'outillage de pierre le plus répandu à l'île de Pâques. Nous n'avons malheureusement pas, on va dire, un des types d'outils les plus importants, notamment des espèces de lames à section carrée qui servaient vraisemblablement à la réalisation de ces sculptures. Maintenant, en ce qui concerne leur transport, on se heurte, ou du moins plusieurs hypothèses sont avancées. Plutôt que de rentrer dans le détail de ces hypothèses, ce qui est très intéressant, c'est que ailleurs dans le Pacifique, là où on a une tradition orale, certes sujette à interprétation importante, nous n'avons malheureusement pas pour l'île de Pâques une tradition orale qui permette de justifier ou d'appuyer une hypothèse plutôt qu'une autre. La seule véritable mention, c'est un mythe qui évoque des sculptures qui, de leur carrière, marcheraient jusqu'au lieu de leur installation. D'où l'hypothèse, qui a priori est saugrenue, mais dont on a pu démontrer la possibilité technique, d'une sculpture qui avancerait presque debout. Je vous ai choisi une image qui est parue il n'y a pas très longtemps dans le National Geographic. J'ai fait exprès à dessein de vous prendre une illustration plutôt d'une publication destinée au grand public. Je vous évoque trois des hypothèses les plus communes, cette fois-ci issues d'une publication plus sérieuse de Nicolas Cowé, qui est le responsable des collections océaniennes du Musée du Cinquantenaire à Bruxelles, par ailleurs archéologue, qui travaille depuis à peu près 25 ans maintenant à l'île de Pâques. L'hypothèse traditionnelle qui est évoquée dès les premiers travaux d'archéologues, c'est un transport sur radeau avec des rondins de bois. Et en fait, ce transport très demandeur en bois pourrait avoir été à l'origine du déboisement dramatique de l'île de Pâques et de la disparition presque totale des forêts aux alentours de 2600. L'autre hypothèse qui a été évoqué, c'est un transport plutôt à la verticale. Et puis enfin, une hypothèse assez intéressante avec des chèvres de bois, donc vous voyez, par un système de ballon qui pourrait évoquer, là encore métaphoriquement, l'idée de marche, qui aurait pu, cette fois-ci sur le ventre, alors que l'hypothèse sur le rondin était plutôt sur le dos, de faire progresser ces sculptures. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois hypothèses, même si chacun des tenants d'une hypothèse plutôt que d'une autre va avoir tendance à déconsidérer les hypothèses évoquées par les autres personnes, finalement, ces trois hypothèses sont techniquement possibles. Alors, je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste de l'île de Pâques et je ne souhaite pas prendre position. Il y a des hypothèses qui sont plus récentes, celle-ci est un peu plus récente que d'autres. Mais, en fait, le fait que nous n'ayons pas de traces matérielles très probantes, on a des statues abandonnées sur le chemin, soit on les voit abandonnées sur le dos, soit abandonnées sur le ventre, et en fait la présence de ces sculptures a fait l'objet de spéculations. Sauf qu'en fait nous n'avons pas, et c'est là la particularité ou un des sujets intéressants, alors qu'il s'agit de sculptures faites il y a quelques centaines d'années, dont on pourrait imaginer qu'on ait conservé une trace dans la littérature orale, dans la mémoire collective, la brutale interruption de l'histoire orale de l'île de Pâques avec la déportation au Pérou a fait que, en fait, là où en fait, on pourrait combiner des hypothèses archéologiques avec une tradition orale, ce que font la plupart des archéologues ailleurs dans le Pacifique, aujourd'hui, on est dans une forme de discontinuité, un petit peu comme si finalement on était dans une culture morte. Par ailleurs, on sait que les habitants de l'île de Pâques qui partent pour le Pérou sont des gens qui n'ont pas connu le culte des grands Haou. C'est-à-dire qu'en fait, avec le déboisement global de l'île de Pâques, avec le changement environnemental, on ne sait pas si l'un est la cause de l'autre, on a un changement culturel également et on a une concentration de la culture, non pas par fragments de groupes, comme je vous l'avais dit, sous la forme de petites parcelles de terre qui se déroulent du centre de l'île vers le littoral et qui sont marquées par la représentation de grands ancêtres, peut-être les premiers migrants vers l'île sous la forme de ces ancêtres divinisés que seraient les grands Moai. On a, à partir de la fin du XVIe siècle, ou plus vraisemblablement à partir du début du XVIIe siècle, de nouveaux cultes qui se mettent en place avec des changements radicaux, plutôt qu'une satellisation ou plutôt un morcellement de ces groupes sociaux avec sans doute ce qui apparaît de plus en plus comme des systèmes d'interdépendance d'un groupe vers l'autre, on aurait au contraire une centralisation beaucoup plus forte du pouvoir avec un culte rendu à l'homme-oiseau sur un nouveau site de culte autour du site d'Orongo dont je vous montrais quelques photos mais que j'avais mal placé dans mon PowerPoint. Où est-ce qu'est Orongo? Voilà le site d'Orongo et voilà le site du Rano Cao. Qui est en fait un volcan dont le cratère, avec un lac au milieu du cratère, et c'est sur le flanc, alors je ne vais pas vous montrer avec mon doigt, voilà, c'est à peu près à ce niveau-là, sur le flanc qui tombe vraiment à pic du volcan dans la mer, que se trouvaient une fois par an un certain nombre de chefs religieux qui, à l'issue d'une compétition sportive, nommaient un personnage qui allait concentrer le pouvoir à la fois politique et religieux, autour de Makemake, l'homme-oiseau. Où est-ce que j'en suis? Voilà Torre Yerdal. Voilà. Mais, en fait, j'ai oublié de... Je voulais vous mettre une photo Rongorongo. Les Rongorongo, et là c'est honte à moi, alors je reviens encore sur mes transports. Rongorongo, c'est un système de petits signes, une centaine à peu près, qu'on retrouve sur des plaquettes de bois pour l'essentiel, 26 au total, ainsi qu'un sur un certain nombre d'objets, mais en nombre beaucoup plus limité, des objets qui font des petits signes, toujours les mêmes. Et c'est ça qui est assez intéressant, et le fait qu'on ait, bien qu'on en ait un assez grand nombre, une centaine de signes, on va les retrouver sans grande variation d'une tablette à l'autre, souvent sous la forme de séquences. Ce qui a fait dire à des linguistes qu'on avait une langue. Cette hypothèse, moi je me souviens quand j'avais été à l'île de Pâques, donc il y a maintenant 30 ans de ça, c'était l'hypothèse globale, si vous voulez. Il y a bien une histoire, une l'écriture à l'île de Pâques, sauf qu'on n'arrive pas à l'interpréter, nous n'avons pas la grammaire. Aujourd'hui, on est revenu sur ce principe et on pense qu'il s'agit beaucoup plus d'un système mnémonique. Ce sont des systèmes qui font l'objet aujourd'hui de recherches de plus en plus fines dans le Pacifique. le pouvoir, aussi bien religieux que politique, va s'inscrire dans des revendications qui sont liées à des systèmes lignagés, c'est-à-dire qu'en s'affiliant à une succession de générations, avec un ancêtre fondateur, par exemple, à la fois homme, à la fois Dieu, on va pouvoir construire du pouvoir ou légitimer la puissance de telle personne par rapport à une autre. On a un très grand nombre de ces objets mnémoniques. Je vais vous en citer deux exemples liés au monde pacifique. On a, et vous en verrez un dans les pièces, des espèces de cordelettes à nœuds avec un corps central qu'on va retrouver ainsi aux îles Marquises. L'ancêtre fondateur, le dieu fondateur, et puis ensuite une multitude de petites cordelettes, toutes pourvues d'un certain nombre de nœuds. Chaque nœud correspond soit à une séquence d'ancêtres, soit à un ancêtre particulier, jusqu'à, à l'extrémité de la corde, une personne présente. Et en fait, ce sont des objets qui servent peut-être d'aide-mémoire, mais plus vraisemblablement à matérialiser un système de succession qui vont être rappelés à des événements particuliers qui vont justement faire sortir un personnage d'un, on va dire, d'une communauté. Donc, permettront de mettre en valeur un personnage avec un statut distinct des autres. L'autre chose, ce sont les grands bâtons lignagés qu'on va trouver chez les Maoris. On en connaît une dizaine, ils sont relativement peu nombreux, mais spectaculaires. Ce sont des grands bâtons qui pourraient se présenter comme des cannes, avec une représentation de petits personnages en partie sommitale, et la partie inférieure se présente souvent sous la forme de pointe, et puis vous avez des espèces de crochets ou des formes de découpées, si vous voulez, qui vont marquer des séquences. Alors là où finalement notre savoir est relativement encore, on en est réduit à des hypothèses, c'est qu'il s'agit, on ne sait pas s'il s'agit de séquences en tant que telles, c'est-à-dire des groupes d'ancêtres ou au contraire des ancêtres. Il serait peut-être un peu européano-centriste d'imaginer qu'il s'agisse d'ancêtres comme on les aurait sur des arbres généalogiques médiévaux, par exemple. Et il faut plutôt imaginer comme des systèmes cycliques, c'est l'hypothèse que je propose, même si je n'ai pas grand-chose pour l'appuyer, des systèmes cycliques qui permettraient en fait d'évoquer des groupements d'ancêtres. Lorsqu'on étudie les systèmes généalogiques dans le Pacifique, on a bien des noms distincts pour chacun des ancêtres, mais il est probable que, en fait, si on projette un imaginaire occidental, on verra effectivement, telle personne est le fils de telle personne qui est le fils de telle personne. En réalité, il faudrait peut-être plutôt voir ça comme des systèmes de groupes d'ancêtres qu'on va multiplier, un petit peu comme des systèmes fractales. Mais là encore, je vous renverrai à une littérature plus précise si cela vous intéresse. Ce qu'il apparaît pour les lectures Rongo-Rongo, des tablettes, c'est qu'on sait maintenant comment les lire. Il s'agit d'un système d'écriture en boustrophédon inversé. C'est le même système que vous avez pour le linéaire B, par exemple, en boustrophédon. C'est-à-dire, on va lire une ligne, puis lire la ligne suivante à l'envers et ensuite renverser. Il s'agit de renversement, sauf que là, il s'agit d'un système complexe. Si je prends, par exemple, ma plaque, c'est mon téléphone portable, je vais l'ouvrir comme ça, complètement comme ça, je ne vais pas vous tromper. La première ligne, vous la verrez, la lirez ainsi. La deuxième ligne, vous devrez retourner. La troisième ligne, vous reviendrez ensuite et vous la lirez comme ça, et ensuite ainsi. Donc, on sait maintenant, on connaît le système de lecture et il s'agit vraisemblablement donc d'un système mnémonique qui permet de réciter un certain nombre de groupes de lignages. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces objets, en même temps qu'on les voit apparaître dans la littérature, ils font l'objet de collections et c'est l'évêque Étienne Jaossen, qu'on appelle Tepano Jaossen, qui est cet évêque dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est basé à Tahiti et qui va collectionner abondamment ces tablettes et qui fait paraître le premier ouvrage en 1893 sur ces tablettes. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous ne le trouverez pas sous son nom parce qu'il est édité sous le nom d'Ildefonse Alzar, qui est en fait son correspondant et c'est lui qui prend en note les notes de Tepano Jaossen. Donc le livre s'appelle L'île de Pâques, historique, écriture et répertoire des signes des tablettes de bois d'hibiscus intelligent. Ce même répertoire, il est repris et ensuite complété par un personnage dont je vous parlais tout à l'heure, Stephen Chauvet, dans un ouvrage important publié dans les années 30, juste avant que le musée d'ethnographie du Trocadéro clôture ses portes avec justement une exposition sur l'île de Pâques, en même temps que Stéphane Chauvet publie ses ouvrages, et en même temps d'ailleurs, au juste, ça signale le retour de l'expédition en 34-35, cette expédition franco-belge de Henri Lavacherie et d'Alfred Métro. Donc vous voyez, on a une première phase, l'extrême fin du 19e siècle, mais avec déjà des précédents dans les années 60, puis les années 30, et puis depuis une dizaine d'années, une bonne vingtaine d'années, vous avez Roger Fisher et puis Constantin Podziniakov qui ont fait des travaux assez profonds, et ce sont ces deux chercheurs qui véritablement ont maintenant rejeté l'hypothèse d'une écriture, à savoir avec un vocabulaire, des constructions narratives si vous voulez, plutôt que, et qui privilégient une structure plutôt mnémonique que véritablement littéraire. Alors je vais vous proposer maintenant un petit peu d'épistémologie, mais d'épistémologie du dimanche après-midi, donc ça va être très léger, pardonnez-moi. Je vais vous proposer en fait quatre formes d'interprétation, et je vais essayer de façon, j'espère, pas trop idiote, de vous montrer comment ça fonctionnait. D'abord, en fait, les systèmes d'interprétation de l'île de Pâques vont fonctionner comme des véritables systèmes scientifiques. À savoir, on va proposer une hypothèse qui va être testée sur la forme ou sur la base d'évidence ou de preuves matérielles. Et je vais vous rappeler rapidement quels sont les chercheurs qui ont travaillé sur l'île de Pâques. C'est-à-dire qu'on va bien avoir des erreurs interprétatives dès le début, mais des erreurs interprétatives qui vont être affinées par des publications successives. Alors, et c'est pour ça que je voudrais être prudent, il ne s'agit pas de rejeter complètement les premières interprétations, puisqu'il s'agit de jalons dans des hypothèses interprétatives, mais qui vont se retrouver complètement ou partiellement invalidées par des recherches suivantes. Les premières personnes à faire des recherches systématiques sur l'île de Pâques sont des gens comme l'archéologue Catherine Routledge, qui va publier ses premiers travaux en 1919, et c'est véritablement le cœur fondateur d'une recherche archéologique fondamentale, même si en 1919, ces recherches ne peuvent pas être mises en relation avec d'autres recherches. Je vous ai dit que jusque dans les années 50, on a plein de recherches satellitaires dans le Pacifique, mais pour le moment, les résultats ne peuvent pas être mis en réseau et donc aboutissent à des hypothèses qui sont parfois un petit peu hasardeuses ou fantaisistes, puisqu'on n'a pas un corpus encore suffisant pour pouvoir créer des liens d'une recherche à l'autre. Ensuite, vous avez un autre chercheur, Macmillan Brown, qui, un tout petit peu après Catherine Routledge, publie The Riddle of the Pacific, là encore, qui se pose des questions aujourd'hui dont les réponses sont considérées comme fausses, mais importantes dans les premières hypothèses sur les peuplements du Pacifique. Donc, c'est un ouvrage qui est publié, The Riddle of the Pacific, qui est publié en 1926. Ensuite, la grande étape, mais qui se préoccupe peu, en fait, finalement, de l'île de Pâques dans le reste du Pacifique, c'est l'expédition franco-belge d'Henri Lavacherie et Alfred Métro. Et c'est finalement Alfred Métro qui va, c'est plutôt la partie ethnographique, si vous voulez, qui va prendre le pas sur l'hypothèse ou sur les hypothèses archéologiques, puisqu'en fait, les travaux archéologiques sont peu publiés ou seront publiés beaucoup plus tard par, Madame Froment, qui était directrice du musée du Cinquantenaire, qui a publié plutôt, elle, dans les années 90, le matériel ethnographique ramené par, le matériel archéologique, pardon, ramené par, par Henri Lavacherie. En 1955-56, c'est les grands travaux de Thor et Jørdal, qui sont vraiment, cette fois-ci, les premières travaux archéologiques systématiques, mais qui sont publiés avec le biais dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le présupposé d'une population partiellement au moins américaine. Néanmoins, le matériel archéologique découvert par Thor et Jørdal est véritablement un matériel archéologique tout à fait fondamental. Ensuite, vous avez, en fait c'est un petit peu plus tôt, vous avez Sébastien Englert qui lui fait des fouilles depuis les années 1935-36, et puis on va dire que l'époque contemporaine est marquée plutôt par les travaux de Johann von Tilburg, notamment autour des hypothèses quant au déplacement des sculptures. Et puis je vais vous citer d'autres chercheurs, certains sont sans doute familiers de vous, Catherine et Michel Orliac, même si eux sont effectivement des archéologues, mais l'essentiel de leurs travaux se sont focalisés plutôt sur le matériel en bois. Vous avez Terry Hunt et Carl Lippo qui ont mis en évidence la capacité des habitants de l'île de Pâques à travailler en coopération, et c'est à travers leur fouille ethnographique et leur fouille archéologique, excusez-moi, ils ont tenté de mettre en avant justement la part de collaboration que supposait la mise en place des grands haous, leur transformation et le déplacement des grandes sculptures de pierre. Vous aviez William Molloy sur le transport des statues, et Nicolas Coway qui là aussi travaille partiellement sur le transport des statues, mais qui propose des interprétations assez intéressantes, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, c'est un grand ami, donc je ne vais pas m'amuser à taper du sucre sur son dos, mais qui propose plutôt des interprétations tout à fait intéressantes sur les sculptures laissées à l'état d'ébauche sur le grand volcan carrière de Rano Rarako. Ensuite, donc ça, ce sont, si vous voulez, la manière dont fonctionne le discours scientifique. On avance des hypothèses, certaines sont retenues partiellement, et puis certaines sont rejetées par des découvertes. J'ai encore 5 minutes. 10, ça va. Et ensuite, on va avancer vers des choses un petit peu plus polémiques, à savoir des hypothèses qui reposent sur un présupposé culturel erroné. Là, j'ai déjà parlé, je ne vais pas revenir sur le cas de Thor Heyerdahl, je vais plutôt, pas ironiser, mais travailler sur l'hypothèse de Jared Diamond. Ce qui est assez intéressant, c'est que Jared Diamond bénéficie d'une aura populaire extraordinaire, alors que dans le Pacifique, il est pratiquement haï, à la fois par les communautés scientifiques, par les autorités politiques. C'est d'ailleurs un petit peu injuste parce que c'est quelqu'un, comme vous le savez, qui a une formation de biologiste, donc qui va proposer des hypothèses interprétatives liées à sa formation initiale et qui pourrait le lui reprocher. Et je sais que parmi mes collègues anthropologues qui détestent Jared Diamond, il faut savoir qu'il a vécu en partie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc je connais les gens avec qui il a travaillé. En fait, j'ai bien peur que dans cette détestation disciplinaire, il y ait précisément une forme de sectarisme disciplinaire. Et en fait, le présupposé culturel qui rend caduque les interprétations de Jared Diamond, c'est précisément le fait que ce qu'il observe des comportements humains soit réduit souvent à une dimension un petit peu biologique. L'hypothèse de Jared Diamond, c'est que, en fait, il existe des sociétés humaines qui s'autodétruisent. C'est la grande thèse, si vous voulez, de collapse. Et en fait, le parti pris, c'est de travailler justement sur cette période intermédiaire qui précède la colonisation et qui montre une île de Pâques affamée, sans ressources naturelles. Effectivement, lorsque des gens comme Roggeveen, puis James Cook, puis d'Entrecasteaux arrivent à l'île de Pâques et en témoignent, ils voient une île sans grands arbres, et pour une population polynésienne, une île sans grands arbres, c'est effectivement une île qui ne peut plus construire de radeaux pour transporter les sculptures, mais finalement, je dirais que c'est assez accessoire, mais qui se prive des moyens même de sa culture, c'est-à-dire une relation avec la mer. Et donc, en fait, en arrivant à l'île de Pâques, les gens voient des gens sans pratiquement de pirogues ou d'instruments de navigation. Pour Jared Diamond, pour faire relativement clair, il évoque donc une société complètement perturbé. En réalité, là où il faut être relativement prudent, c'est que nous ne connaissons pas jusqu'à quel point cette société était perturbée, et on assiste bien à un système culturel, avec les rares témoins que nous en avons et qui peuvent être interprétés, qui pose un certain nombre de problèmes et sur lesquels une conclusion trop hâtive serait sans doute très peu sage. En d'autres termes, je vous rappelle un petit peu le contexte dans lequel nous travaillons. Nous avons une société qui, au cours du XVIIe siècle, change de structure. On passe sans doute d'un système, comme on l'a ailleurs en Polynésie, de petits groupes sociaux avec ses propres espaces cultuels, l'équivalent des marae, donc qu'on appelle des haou, qui sont sans doute liés à des ancêtres fondateurs ou des lignages fondateurs, à une société qui serait plus centralisée autour du site d'Orongo. L'utilisation même du site d'Orongo nous est aujourd'hui problématique. On aurait sans doute des sacrifices humains assez importants, mais dont nous ne connaissons ni les modalités, ni l'ampleur, et puis avec un système centralisé qui correspond, et c'est ça qui est assez intéressant, à des systèmes centralisés qui annoncent des systèmes centralisés qui sont ceux du début de l'époque coloniale, ailleurs en Polynésie. Alors, je ne veux pas, là encore, proposer une interprétation personnelle trop, ou une interprétation trop personnelle, précisément parce que je n'ai pas entre les mains l'ensemble des données et je ne suis pas un spécialiste de l'île de Pâques, mais il est évident que dans les années 1820, lorsque les colonisateurs arrivent, ils vont valoriser un groupe social plutôt qu'un autre. Et en fait, ils vont accorder à ce groupe un certain nombre d'avantages matériels, des armes en particulier, des outils de métal, ce qui fait qu'en fait, de systèmes extrêmement mosaïqués, on a des systèmes finalement avec une pyramide, avec une pointe. En fait, les systèmes polynésiens, ce sont des multiples groupes en compétition les uns contre les autres. Quand James Cook arrive, il veut voir un roi à Hawaï, il veut voir un roi à Tahiti ou une reine, c'est-à-dire qu'en fait, artificiellement, les premiers explorateurs vont donner une tonalité monocéphale, si vous voulez, à ces sociétés, alors qu'on sait qu'en réalité, c'était des sociétés multicéphales. Est-ce que ce culte de l'homme-oiseau est lié à l'époque coloniale? Quel est l'impact réel de cette déforestation sur ce changement? Est-ce que le changement environnemental produit un changement culturel ou est-ce que c'est à l'inverse un changement culturel qui serait lié à d'autres causes, une épidémie, une absence de ressources, une série de sécheresses particulières? C'est-à-dire que les réalités et les raisons pour lesquelles on avait cette déforestation nous sont mal connues. Première chose. Deuxième chose, et c'est le critère, ou si vous voulez, la critique la plus profonde, c'est qu'on se demande aujourd'hui si cette déforestation telle qu'elle est vue par les premiers explorateurs au cours du XVIIIe siècle n'est pas fortement exagérée. En d'autres termes, il aurait existé des ressources plus importantes et une capacité de collaboration et de répartition des richesses et de travail en commun qui a été, si vous voulez, un petit peu sous-évaluée par une partie de la critique, et justement en insistant sur le côté anarchique, les sacrifices humains, la déforestation, Jared Diamond aurait négligé un certain nombre d'autres paramètres sociaux qui auraient permis, si vous voulez, de contrebalancer des problèmes environnementaux. Ensuite, alors voilà Jared Diamond. Ensuite, dans les autres hypothèses, donc vous voyez, je passe d'une hypothèse scientifique avec des hypothèses ensuite qui sont reprises par d'autres pour être critiquées avec des présupposés, si vous voulez, un peu directionnels ou un peu idéologiques pour Jared Diamond ou pour Tore Heyerdahl, à cette fois-ci des licences poétiques. J'avais choisi, là encore, un peu pour me, si vous voulez, pour faire écho à l'actualité, le dessinateur extraordinaire Hugo Pratt, dont vous avez, je crois, encore toujours une belle exposition au Musée des Confluences à Lyon, avec justement une partie importante qui est consacrée à l'album Mou sur l'Atlantide, où effectivement on va relier l'île de Pâques à l'Atlantide. C'est quelque chose qui évidemment ne repose absolument sur rien, si ce n'est sur l'aspect spectaculaire de ces sculptures, mais c'est ce que j'appelle la licence poétique, c'est-à-dire que Hugo Pratt n'a pas du tout la volonté de faire exister cette île de Pâques imaginaire, mais utiliser un lieu hautement poétique pour servir de base à une création. Alors je m'étais amusé à chercher justement un certain nombre d'exemples de ces licences poétiques. Alors certaines sont particulièrement évocatrices, comme les dessins d'Hugo Pratt, d'autres sont peut-être un petit peu moins connues. Vous voyez, on va retrouver ailleurs en bande dessinée l'île de Pâques comme source d'inspiration pour des ouvrages avec une teneur historique plus ou moins sérieuse. Vous avez un nombre absolument incroyable de jeux vidéo qui se passent à l'île de Pâques. Et donc vous voyez, alors je vous le montre, la pyramide, ou une pyramide égyptienne, ou que je soupçonne être égyptienne, un moai en profil et puis différents symboles. Je pense qu'il doit y avoir Stonehenge aussi, parce qu'en fait, il est difficile d'imaginer que Stonehenge puisse appartenir à une culture différente. Vous avez comme ça, ici vous avez, alors malheureusement je n'ai pu trouver que ça comme image, mais vous avez a car race, vous savez, il y a plein de petits jeux vidéo comme ça, où on a avec son joystick, son game stick, et puis on conduit des voitures, et vous avez un tour de l'île de Pâques en car race. Autant vous dire qu'il n'y a pas de route autour de l'île de Pâques, donc c'est assez amusant, mais je n'ai pas pu vous trouver d'image. J'ai cherché pendant une semaine, mais je n'ai pas pu trouver d'image de ce car race en jeu vidéo, mais vous en avez plein, des jeux vidéo. Et puis évidemment, je voulais vous montrer Gum Gum, que vous connaissez peut-être. Alors ici, vous avez une photo du film, mais vous avez évidemment le jeu vidéo avec Gum Gum, de l'île de Pâques. Donc vous avez comme ça donc une utilisation de l'île de Pâques comme source de l'imaginaire pour travailler sur des, ou en tout cas comme point de départ pour des fictions, souvent assez savoureuses. Là, je ne sais plus exactement d'où j'ai tiré cette image, mais on est toujours dans ces espèces de licences poétiques ou amusantes ou ironiques. Et puis, vous avez, et je voulais terminer avec ça, parce que je vous avais promis de la fantaisie à outrance, vous avez un auteur assez, assez amusant, et quand j'ai commencé à lire un de ses deux ouvrages, et voilà, j'ai oublié son nom, Francis Mazière, il arrive à l'île de Pâques, il fait une description assez sensible d'ailleurs de l'île de Pâques, un personnage tout à fait charmant. Il s'installe un petit peu comme un marin renégat, etc. Donc il met en valeur justement sa posture d'aventurier. Ça marche toujours, et puis d'ailleurs pas toujours à tort. Et, il avait lui-même une épouse d'origine polynésienne, donc qui lui permet de trouver, en tout cas de faciliter son contact avec les insulaires. Il faut penser en plus de ça, comme je vous l'ai dit, la domination chilienne particulièrement abjecte et rude fait que, en fait, quand vous allez à l'île de Pâques, et c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, quand vous vous amusez ou quand vous discutez avec les Rapa Nui et quand vous mettez à parler Polynésie, à ce moment-là, vous avez des gens qui s'ouvrent, qui parlent et qui se sentent en confiance quand on veut mettre en valeur leur culture polynésienne. Et c'est ce qu'a fait effectivement Francis Mazière, mais voilà ce qu'il écrit. Les premiers habitants de Pâques savaient capter des forces parapsychologiques auxquelles nous ne serions plus sensibles. Cette petite île volcanique était alors un des hauts lieux du monde et peut-être même un point de contact avec d'autres mondes. Je vous ai trouvé toujours dans le même. Une curieuse légende disant que Lhasa est le pôle blanc du monde, le pôle noir se situant aux antipodes dans l'île de Pâques. Les statues pasquanes seraient des monolithes géants captant les ondes maléfiques du monde pour en préserver le pôle inverse. Serge Hutin, dans les années 70, les figures représentées par les statues géantes pasquanes sont des hommes dont le type physique ne correspond à aucune race humaine connue. Encore heureux, il faut donc admettre que les Polynésiens, dont les Pasquans actuels sont les descendants, furent dans un très lointain passé dominés par de mystérieux civilisateurs. Évidemment, des petits hommes verts, puisque en fait, quand on voit un peu en clignant des yeux, je pense que les Moai doivent avoir un petit aspect un peu martien ou extraterrestre. Et en fait, pour conclure, non pas simplement sur de l'ironie, je ne sais pas si j'ai une autre, non, j'ai plus d'autres images, je m'étais posé la question de savoir, même si j'en ai pas finalement, j'ai parlé de la chose la plus sérieuse de l'île de Pâques, mais vous avez une littérature extrêmement abondante, je vous cite quelques titres. Les mystères résolus de l'île de Pâques, d'André Valenta et son cercle d'études sur l'île de Pâques et de la Polynésie. Je crois qu'ils sont des gens par ailleurs très sérieux, mais le titre lui-même est assez accrocheur. Secrets et mystères de l'île de Pâques, par un journaliste nommé Gilles Grasdorf, qui avait écrit lui-même un livre qui est quand même pas mal. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je pense que si j'ai du temps libre, je lirai des SS au pays des Dalai Lama. Donc c'est la même personne qui écrit Secrets et mystères de l'île de Pâques, puisque je pense qu'il doit y avoir une connexion secrète entre le pays des Dalai Lama et l'île de Pâques. L'île de Pâques démystifiée par Paul et Jean-Claude Michelot chez Perrin en 1979, qui est aussi celui qui publie Fantastique île de Pâques de Francis Mazière. Vous avez un film très beau, celui dont je vous parlais, Rapa Nui, l'histoire cachée de l'île de Pâques en 2014. Ça, c'est le très beau film. Mais vous voyez que même des ouvrages extrêmement sérieux ne peuvent pas s'empêcher de parler de mystères et de secrets cachés et dévoilés sur l'île de Pâques. Vous avez même des ouvrages. Attendez, L'île de mystère et d'héroïsme du révérend père Mouly. Alors, l'île de mystère et d'héroïsme, vous dites, mais c'est quoi? En fait, c'est l'histoire du premier prêtre qui s'installe à l'île de Pâques. Donc, vous voyez, même pour faire de l'histoire religieuse, on va évoquer le secret, le mystère, l'héroïsme et l'aventure. C'est assez intéressant. Alors, je m'étais posé la question, et je vais conclure comme ça avant de vous céder la parole. En fait, à pourquoi, finalement, l'île de Pâques va générer cette littérature un petit peu farfelue? Parfois farfelu, parce que j'ai évoqué des choses tout à fait tout à fait remarquable dans la première partie de mon exposé. D'abord, il s'agit d'un grand isolement géographique. Et quand vous arrivez à l'île de Pâques, finalement, vous vous dites, vous avez du mal physiquement à le relier à d'autres parties du monde, alors qu'on sait qu'elle s'est reliée, mais il est relativement facile de l'isoler, je vous ai dit, plusieurs milliers de kilomètres avant la première autre île habitée. Donc, le premier point, c'est le très grand isolement géographique. D'autre part, la toute petite taille de l'île de Pâques, ce qui fait que vous pouvez l'arpenter en quelques jours et vous allez avoir une impression, si vous voulez, ce paramètre lié au premier paramètre va justement porter ou inviter à des interprétations un petit peu farfelues. Il me semble néanmoins que les deux éléments qui prêtent justement le flanc à une interprétation un petit peu fantaisiste, c'est d'une part des ruptures historiques profonde. Je vous en ai parlé, une première rupture qui est liée à la déportation massive, puis à l'arrivée de maladies, au confinement de la population et à la perte d'une grande partie de la culture orale. Et puis d'autre part, des drames environnementaux certains liés à la surexploitation ou une surexploitation supposée des ressources de l'île, et cela dès le XVIIe siècle, et puis à cours du XIXe siècle, la transformation de l'île en une grande prairie à moutons. Et en fait, c'est finalement, on va dire, une rupture brutale qui contraste avec les autres îles du Pacifique, ce que j'évoquais depuis le début, qui justement va générer ces discours un petit peu farfelus. Voilà, c'est comme ça que je voulais vous présenter ces îles de Pâques comme source de fake news ou d'interprétation un petit peu amusante.
Pour ceux qui sont encore là et qui le souhaitent, vous voulez poser des questions, peut-être ?
Merci, monsieur.
Je vous entends, en tout cas.
Bon. Comment expliquer cette surexploitation forestière de l'île alors qu'aucun phénomène semblable se retrouve dans aucune autre île du Pacifique ?
Alors, on est dans une île qui est un petit peu différente des autres îles dans la mesure où elle est beaucoup plus exposée au vent, si ma mémoire est bonne, que d'autres îles du Pacifique. Et là où aujourd'hui on est en train de replanter une forêt, c'est dans la partie centrale, une forêt d'eucalyptus, si ma mémoire est bonne. Il pourrait y avoir plusieurs causes. D'une part, on évoque des causes démographiques, c'est-à-dire, et c'est l'hypothèse de Jared Diamond qui n'est pas complètement fausse, c'est-à-dire, à un moment donné, on arrive à un équilibre rompu entre la capacité d'un environnement, ici limité et isolé, et une population. Maintenant, et là encore, il faudrait que vous fassiez vérifier mes dires auprès de vrais spécialistes de l'île de Pâques, nous l'avons vu, les habitants du Pacifique sont d'une part des colonisateurs et d'autre part l'hypothèse selon laquelle quand on arrive dans une île, on ne peut plus en repartir est une hypothèse qui aujourd'hui ne nous semble pas valide. C'est-à-dire qu'il y a des va-et-vient entre les îles. Et en fait, c'est pour ça que l'hypothèse d'un effondrement n'est pas une hypothèse à rejeter complètement, mais relativement fragile dans la mesure où ça n'est possible que si l'on suppose les habitants de l'île de Pâques incapables de sortir de leur île. Il est vrai qu'aujourd'hui, ils ne le sont plus, puisqu'en fait, il n'y a plus les ressources. Est-ce que ça a toujours été ainsi, ou est-ce qu'il n'y a pas eu des hypothèses de plan B ? C'est difficile de le dire.
Il serait venu d'Amérique.
Elle vient d'Amérique.
Elle vient d'Amérique. Dès le XVIe siècle, les Péruviens sont partis se promener jusqu'aux îles Salomon. Ils ont été fort étonnés d'y voir déjà de la patate douce.
Alors, les Péruviens ? Oui. Les Espagnols ?
Enfin, les Espagnols depuis, oui, le Pérou. Au Mendania.
Oui, c'est ça, les Espagnols. Voilà. Oui, oui.
Eh bien, les marins se sont étonnés de voir la patate douce. Dans le texte espagnol, ça y est.
Oui, on a de la patate douce tôt. On pense que la patate douce arrive jusque dans la partie la plus occidentale du Pacifique, dès le XIVe siècle à peu près.
C'est ça, oui.
Puisque les travaux archéologiques qui ont été faits dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée, là où on cultive aujourd'hui la patate douce en très grande quantité, montrent que ça a été acclimaté de façon relativement tôt. Comment elle arrive? Ça reste encore l'objet un peu spéculatif. Mais, si vous voulez, en couplant, au départ, on se disait, c'est une tubercule qui arrive sur un radeau de fortune, on ne sait pas très bien comment. Donc, on privilégiait l'hypothèse du hasard. Aujourd'hui, on privilégie l'hypothèse inverse, c'est-à-dire, puisque on va coupler ça à d'autres hypothèses que j'ai évoquées au début de ma présentation, à savoir une colonisation délibérée du Pacifique avec des allers et retours de l'île-mère jusqu'à l'île colonisée fréquents, si ce n'est systématique au moins fréquents, ça suppose, ou on pourrait imaginer en colonisant ou en ayant des expéditions jusque sur les rives occidentales de l'Amérique, à ce moment-là, on aurait eu l'acclimatation volontaire de la tubercule, ou du tubercule, pardon, dans certaines îles et pas dans d'autres. Puisque ça qui est assez intéressant, c'est que certaines cultures vont faire usage de la patate douce et d'autres, au contraire, sans l'exclure, vont lui donner un rôle rituel ou alimentaire extrêmement secondaire. Donc en fait, aujourd'hui, l'hypothèse est une hypothèse qui est celle d'une acclimatation volontaire de la patate douce. Néanmoins, et n'étant pas archéologue, ce que je dis est peut-être teinté d'erreur, mais dans un cas comme dans l'autre, la part idéologique de l'interprétation est assez forte. J'ai lu récemment, alors ça n'est pas un texte scientifique, donc ça n'est peut-être pas une bonne référence, mais le texte d'introduction au catalogue Oceania à la Royal Academy est un texte idéologique très fort et qui suppose un volontarisme systématique des habitants du Pacifique. C'est idéologique dans la mesure où les preuves matérielles de ce volontarisme font quand même défaut et comme font défaut l'hypothèse aléatoire.
On n'a pas trouvé de chromosomes, de gènes péruviens, andins, amérindiens.
Si.
Globalement.
Si à l'île de Pâques, on aurait une partie de l'ADN qui serait également, qui est fortement polynésien, mais avec des traces. Alors il faudrait que je vous retrouve les
oui, mais
les
ça
documents.
Vient peut-être des Chiliens du.
Non, des traces anciennes.
Anciennes.
Oui. Alors maintenant, je ne suis pas un spécialiste de.
Voilà que c'est intéressant.
Non, il y a des contacts, on le sait. On a eu des contacts humains, a priori, qu'on pensait plutôt être le fait des Polynésiens. Mais si des Polynésiens sont allés en Amérique du Sud et en sont revenus, il est normal qu'ils reviennent avec, partiellement en tout cas, un marquage ADN. Je vous avoue que ce n'est pas la partie du Pacifique, de l'histoire du Pacifique, avec laquelle je suis le plus à l'aise. Ah, vous vouliez mettre à mal, alors. C'est pas sympa, c'est un dimanche soir.
Bon, on s'arrête. Merci encore. Merci à tous.